C'est Gilbert Bribois sur RMC. Attention, RMC a une nouvelle appli. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Il y a tous les shows, il y a toutes les infos, il y a tous les podcasts, dont celui de l'After, évidemment.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Thomas Desson.
Et oui, nouvelle formule pour cette saison 2019-2020. Triple dose d'after de 21h à minuit avec François Manardo, avec Jonathan Macardy. Il y a un instant, Angie Wata nous disait c'est terminé pour Alain Saint-Maximin qui va à Newcastle, qui part de Nice. Il y en a un autre pas loin, Benedetto, qui va arriver à Marseille. Et qu'est-ce qui se passe dans le Nord?
Il se passe plein de choses dans le Nord. Le LOSC qui a déjà remplacé Léao, Victor Osimhen, international nigérian, 20 ans, énorme potentiel, nous dit-on. 34 matchs, 19 buts, toutes compétitions confondues. Ça, c'était l'année dernière. Et c'était dans le championnat belge à Charleroi. Il va falloir passer le cap de la Ligue 1. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui pouvait se passer. Mais effectivement, il a marqué. Ça promet quand même 15 millions d'euros dépensés par Lille. Un contrat de 5 ans. Je vous laisse peut-être réagir déjà à l'arrivée de Osimhen. Est-ce que vous le connaissez déjà?
Pas du tout.
Absolument pas.
Absolument pas.
Pas le plaisir. Non.
François, non, pas le plaisir de connaître Osimhen.
Des stats comme ça dans un championnat qui est un championnat de seconde zone, mais qui reste un championnat sérieux, t'as quand même un minimum de garantie. Après, une chose est sûre, c'est que la cellule de recrutement de Lille se trompe rarement. Et s'ils mettent 15 patates sur un joueur, c'est qu'il est forcément, il y a forcément un potentiel intéressant. Après, moi, la seule chose qui me chagrine, je vais revenir sur cette histoire, mais la vente de Léao. Très bien.
35
L'offre,
millions.
Elle est géniale et tout. Mais un joueur qui est très jeune comme ça, qui fait même pas une saison de Ligue 1, ça méritait quand même de le garder une année de plus pour espérer d'une part faire une plus forte plus-value, oui. Mais d'autre part sportivement ça aurait été plus intéressant de le garder.
Justement, ils vont chercher un autre gamin quasi même âge.
Oui,
là.
Mais c'est pareil, il va falloir du temps pour qu'il s'adapte probablement. T'as des échéances qui sont plus importantes cette année parce que je te rappelle qu'au mois de septembre t'as des matchs européens du très haut niveau qui va arriver et tu vas pas en Ligue des Champions avec un jeune qui aussi talentueux soit-il, arrive de Belgique. Si jeune, non. C'est
Loïc,
un peu dommage.
Loïc Rémy et Osimhen, c'est la pointe de l'attaque lilloise. Pour voyager,
aussi.
Pour voyager, c'est un peu. Les trois pour voyager, c'est
Il a été très mauvais au Celtics, Weah. Et Loïc Rémy, il faut dire une chose, c'est que la fin de saison, il a recommencé à marquer, à être plutôt très bon. Là, et là, en phase de prépa, je l'ai trouvé très, très intéressant. J'ai l'impression qu'il vit une belle fin de carrière.
Angie Wata et vous, Jonathan, vous dites ils ont dépensé 15 millions, ils en sont encore à 150 millions de plus-value.
Ah non, mais là, ils vont avoir des bénéfices énormes. Ce que dit Jonathan, et je t'ai entendu déjà il y a 2-3 jours dans l'after, j'étais assez d'accord avec ça. On a le sentiment que les Lillois ont fait beaucoup d'efforts, déjà que les supporters de Lillois ont fait beaucoup d'efforts en acceptant complètement Pepe, Thiago Mendes, etc. Et que là, Léao, ça fait quand même un petit pas de plus, ça démantèle un petit peu l'esprit du projet Lillois. Je crois que tu l'avais dit comme ça.
François, est-ce que Lille peut la faire façon Monaco? Parce que c'est Luis Campos derrière, ça ressemble fort aux trois saisons d'il y a 4 ans, si vous me suivez, de la
Je vais
Monaco.
Citer du Aubragnac, qui connaît un peu le club. Ils veulent injecter beaucoup d'argent dans les structures, sauf que je comprends pas très bien, parce que le domaine de Luchin, quand même, c'est presque ce qui se fait de mieux en France. Ils veulent un petit peu rembourser la dette. Ils vont récupérer également de l'argent de leur participation à la Ligue des Champions, plus grappiller encore un peu de sous si ils obtiennent quelques résultats, malgré le fait de tomber dans une poule qui sera forcément très difficile. Mais c'est la stratégie de Lopez, qui est épaulée par Campos. On n'est pas surpris par ça. Après, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent pas comme Monaco, parce qu'il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence monégasque, effectivement.
Il y a eu l'année trop à Monaco.
De trop se dépouiller. Moi, je suis. Comment dire? Je suis sceptique, quoi, par rapport à. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec André, le recrutement, c'est bien.
Très bien. Surtout pour le prix, c'est très bien.
Bamba est pas parti.
Trois officialisations aujourd'hui à l'AS Monaco. Léao,
Maignan,
au Milan AC.
Ils ont reçu quand même des offres aussi. Attends, Maignan, c'est 42 millions qu'on leur a mis sur la table pour un gardien de but, ce qui est énorme. Ce serait le record en France.
Après, peut-être que le joueur voulait tout simplement pas y aller pour le
dire non.
Est-ce que le zéro point de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
T'étais obligé d'en reparler de ça?
Quoi donc? Si vous me dites.
Doit faire jurisprudence.
Bon, enchaîne.
Bah voilà,
non, juste les trois officialisations.
Est-ce qu'il y a en Ligue des Champions?
Je sais pas. Monaco, ouais, regardez Monaco l'an dernier, par exemple.
Oui, mais Monaco. Enfin.
Non, mais si on a plus que des gamins, si on est.
Pas qu'il n'y avait pas de logique.
Bon, rassure-nous, donne-nous les trois officialisations.
Non, mais tu dis dépouiller sur l'AS Monaco. Monaco, hier encore, avait 63 joueurs sous contrat. Donc en fait, non, mais c'est pas seulement
chiffre, ça c'est un chiffre
sous contrat professionnel.
Moi, j'avais dit 70 il y a une semaine.
63. Sous contrat, tu t'es fait tomber dessus un peu sur Twitter.
C'est beaucoup moins, a priori. Ah
bah, c'est 63 qu'on toujours professionnel à l'AS Monaco.
Bah, balance-nous pour nous rassurer.
Juste les trois officialisations, vous les connaissez déjà, hein, mais c'est officiel, les trois officialisations du jour. Pour le LOSC, Léa au Milan AC, 35 millions d'euros, officialisé. L'arrivée du défenseur portugais Thiago Diallo à Lille, donc, ça a été annoncé par le club. Il a été vendu comme un grand espoir. Grand espoir du football portugais sur le site officiel du LOSC. Et puis, bien évidemment, c'est Arsenal qui a officialisé Nicolas Pépé.
Ça m'intéresse de deux minutes, là, les spécialistes. On ne va pas parler d'attaque pâle, parce que du coup, Aubameyang, mais plat à Arsenal. Pépé, Lacazette, Aubameyang, ensemble, c'est possible?
Bah oui. Oh oui. Pourquoi pas?
C'est
prévu comme ça.
Mais c'est complémentaire, même. Et puis, avec Ceballos qui va leur envoyer des ballons en profondeur, bonne chance pour défendre sur eux.
Quand ils étaient à deux, pour faire plaisir à... Enfin, faire plaisir, si, c'est le terme que j'ai en tête, avec Özil, c'était pour faire plaisir à Özil. Là, on va pouvoir retrouver ça, cette profondeur-là. Ça fait pas beaucoup... Faut des défenseurs derrière. Enfin,
Tu joues à trois devant. Tu mets Mesut Özil à la rigueur, mais bon, Mesut Özil, intermittent du spectacle, tu peux aussi ne pas le mettre. Özil. Et puis, t'as recruté surtout Dani Ceballos, qui est un super pourvoyeur de ballon. Voilà, après, le problème d'Arsenal, c'est pas le nombre de défenseurs, c'est pas le bloc équipe, c'est la qualité intrinsèque des défenseurs. Ils ont des chèvres derrière, faut dire ce qui est. Donc maintenant, il va falloir penser un petit peu à leur recrutement.
Mais bon, et pas des Arsenal, joueurs offensifs.
Et je vais te dire, c'est Arsenal, c'est pas la Ligue 1.
Allez, ce sera des 5-4 tous les week-ends, Crazy Derby, et vous verrez ça sur RMC, parfait.
J'enchaîne, on parlait de l'AS Monaco, ça bouge aussi à Monaco, et là aussi, un Nigérian, comme Osimhen, c'est Onyekuru. Henri Onyekuru, contrat de 5 ans pour Henri Onyekuru à l'AS Monaco. C'est l'attaquant d'Everton qui était prêté l'année dernière à Galatasaray. Il a marqué 14 buts en 31 matchs dans le championnat turc. Environ 12 millions d'euros dépensés par l'AS Monaco. Le profil, c'est un attaquant plutôt rapide qui évolue surtout sur un côté. A priori, c'est pas le remplaçant de Falcao.
Quel âge?
Non, c'est le remplaçant de Vinicius.
Là, je ne l'ai pas dit.
C'est un jeune?
Simplement parce que je l'ai pas, mais je crois qu'il est plutôt jeune.
S'il est né le 1er janvier, on est mal engagé.
Ton ordi d'ouvert, Jonathan, vérifie.
Comment ça s'est peu?
Onyekuru. O-N, futur super eagle. O-N-Y-E.
On enchaîne avec Bordeaux.
Alors, on a bien fait de passer 5 minutes sur le cas Koscielny à Rennes. Vous nous dites Bordeaux est encore sur le coup.
Exactement. Mais en plus, on vous avait déjà dit qu'il y avait un accord entre Rennes et Koscielny. Ça avait été démenti par la suite par Olivier Létan. Ça s'est quand même calmé depuis quelques jours autour de Laurent Koscielny. Il y a la piste rennaise, effectivement. Julien Stéphan qui a confirmé son intérêt pour le joueur d'Arsenal. Et puis aujourd'hui, il y a le directeur sportif de Bordeaux, Eduardo Macia, qui a confirmé lui aussi la volonté des Girondins de faire signer Laurent Koscielny. Ouais. Il n'a toujours pas réussi à se libérer de sa dernière année de contrat. Laurent Koscielny, c'est quand même ça le plus important dans cette histoire, c'est qu'il reste un an de contrat à Laurent Koscielny et que pour l'instant, il n'est pas libre.
Onyekuru, 22 ans,
les gars. Équivaut 22 ans et demi par an de salaire.
Ouais. Compliqué. Après, ça pourra être, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça pourrait être une très bonne recrue pour Bordeaux ou pour Rennes, dans les deux cas.
Mais ça ressemble à l'idée de pister aussi Olivier Giroud, c'est-à-dire on est en mesure éventuellement d'offrir un bon salaire à quelqu'un
qualité
qui peut offrir,
de vie, voilà, les vignobles,
qui peut offrir des garanties pour une dernière belle pige.
Pas, il s'était pas abonné à une société de déménagement bordelaise d'ailleurs sur Instagram.
Si, il y avait eu cette histoire. Ouais. Ouais. Alors Corrèze, franchement, c'est une information qu'on n'a pas vérifiée. Ça.
Vous me corrigez sur ma géographie, mais la Corrèze,
c'est loin de Bordeaux
que de Bretagne,
plus près de la Gironde,
la Bretagne.
Oui, c'est plus près de. Il est plus près de Tulle en étant à Bordeaux
carrière. C'est pas joué.
Saint-Etienne a fait les choses dans l'ordre.
Saint-Etienne,
vendeur pendant plusieurs semaines, acheteur depuis une dizaine de jours.
Et surtout qu'ils avaient déjà eu une phase d'achat bien avant tout ça. En tout cas, ça sera allé très vite parce que je vous annonce qu'en fait, Saint-Etienne va peut-être boucler son mercato définitivement d'ici la fin de la semaine. Ils ont officialisé aujourd'hui, on l'a vu, le prêt de Jean-Eudes Aoulou, prêt sans option d'achat, milieu de terrain de l'AS Monaco. Ils cherchaient un milieu de terrain. Saint-Etienne qui cherchait également un latéral gauche.
Et là,
deux dossiers étaient pas en concurrence en l'occurrence, mais il y avait deux dossiers prioritaires. Il y avait le retour de Timothée Kolodziejczak, ça discute toujours et c'est plutôt en bonne voie. Et puis il y avait le dossier du Péruvien dont tu vas nous parler, Jonathan, puisque évidemment tu le connais, c'est un Péruvien, c'est ta zone, donc tu te débrouilles, tu le connais. Troco. Miguel Troco, il joue à Flamengo, 26 ans, et il va probablement débarquer à l'AS Saint-Etienne.
C'est un joueur qu'on a vu contre la France à la dernière Coupe du Monde, qui est un titulaire inamovible de la défense péruvienne. Latéral gauche, très bon pied, techniquement très fin, défensivement c'est solide. C'est un joueur pour moi que je trouve très très bon et qui m'a tapé dans l'œil depuis 3-4 ans. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Pierrot Ducrot avait les droits pour le représenter après la Coupe du Monde. Ça coûte pas cher, il y a pas de club qu'on a...
1 million d'euros.
Il y a aucun club qui en a voulu après
la Coupe du Monde. Il était en finale de la Copa.
Alors qu'il a fait une très grosse Coupe du Monde.
Il était à 6 mois de la fin de son contrat.
À la Copa América, il a fait une très bonne Copa América comme d'habitude. Avec le Pérou, il est brillant. Alors au Brésil, je sais pas trop ce que ça a donné, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il rentre plus vraiment dans les plans de Jorge Jesus, qui entraîne Flamengo. Donc pour 1 million d'euros, de prendre ce joueur-là, qui a une qualité, qui a une expérience internationale, il y a toujours le petit risque, tu sais, le doute de l'adaptation des Sud-Américains en France, mais pour 1 million d'euros...
Pour le Forest, surtout
Bergessio.
Tu sais, hein.
Gonzalo Bergessio.
Bergessio était pas une grande réussite.
Aloisio, Alex,
hein.
Juste pour finir, c'est un pari qu'il faut prendre, et je suis désolé, ce joueur-là, je l'ai vu jouer quand même beaucoup de fois. S'il arrive à avoir son niveau de sélection, il a sa place dans n'importe quel club de Ligue 1, mis à part le Paris Saint-Germain, qu'on soit bien clair. Il peut jouer à Marseille, il peut jouer à Lyon, il peut jouer à Monaco, s'il est au niveau de la sélection. Et moi, je pense à un club, juste encore une fois, pour terminer, pour faire court, mais à un club qui a un latéral gauche qui est totalement au frais, qui est nul depuis un an et demi, et qui a même pas essayé, on leur a proposé, ils ont même pas voulu donner suite. Bon bah bravo c'est à Saint-Etienne et tant pis pour l'OM.
On a gagné.
Bravo, tout. Bravo Angie.
C'est comme ça.
Comment les présidents de la SSE peuvent te dire après ça que en ce moment les dépenses ça couvre simplement les frais de chauffage de la nouvelle pelouse. Ils ont quand même fait des belles plus-values ces derniers temps.
Il y a eu des belles plus-values, mais il y a aussi l'histoire du transfert de Saliba. En réalité, les 30 millions d'euros, ils sont pas touchés immédiatement par la S Saint-Etienne.
C'est échelonné sur plusieurs.
Absolument.
Combien, 3-4 paiements?
Oui, il me semble que c'est en 3 paiements. Ouais. Enfin, je te dis ça, mais j'en suis pas complètement sûr.
Entendu,
il me semble que c'est ça.
Est-ce qu'il attend encore au Mexique, Timothée Kolodziejczak?
Timothée Kolodziejczak, il attend au Mexique, effectivement, et puis il va pas tarder à arriver puisque c'est quasiment bouclé pour son retour à Saint-Etienne. Ce sera probablement un prêt, encore une fois, avec une option d'achat et pas simplement la levée de l'option d'achat. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit réglé très tôt, hein. En arrivant directement, Ghislain Printemps avait dit, on espère que ce sera fait dans la semaine. Ça s'est pas fait
ils
dans la semaine.
C'est une super défense, la Saint-Etienne.
Ça s'est attendu.
S'ils font Colo, là, ils sont pourvus en défense.
Moukoudi, Saliba, Kolodziejczak, Perrin qui revient, évidemment. Ouais.
Gabriel Silva qui va revenir. Saint-Etienne avant sa blessure. C'était quand même un joueur sûr.
Qui était plutôt un bon joueur, l'un des meilleurs de la défense de Saint-Etienne.
Non, l'année dernière, l'effectif, c'était un joueur sûr quand même.
Oui, ça faisait partie
de Mathieu Debuchy.
Il s'était fait le tendon d'Achille. Mathieu Debuchy. M. Villarest, a priori.
T'as remplacé.
Ils vont réussir un
football tout.
Spécial vert.
En football,
les gars. En plus, t'as remplacé Cabella, dont l'entente sur le terrain avec Casri n'a jamais été évidente, par Boudbouz, qui lui, à mon avis, a plus le profil pour bien faire jouer ses joueurs offensifs. T'as Nordin qui va avoir une saison de Ligue 1 en plus dans les pattes. T'as les jeunes du centre de formation qui sont de très grande qualité.
C'est beau, c'est
beau.
Je pense
à Thibaut Abois. Moi, j'adore Thibaut Abois. Pour moi, c'est un joueur à suivre. Pape Matar aussi devant, qui peut peut-être avoir gratté des minutes.
McTargay.
Ouais, parce
c'est son
nom sur Instagram.
Mais McTargay, prêté à.
Il a été prêté, c'est vrai.
Prêté à Nancy.
C'est vrai. Mais t'as aussi le dribbleur.
Il faut qu'on parle de l'Olympique Lyonnais. Franchement, c'est pas mon genre
le
de dire.
Le dribbleur fou là.
Mais il faut qu'on parle de l'Olympique Lyonnais.
Les gars, en deux
le dribbleur fou là. Belkedim, c'est ça?
Ben Kedim,
ouais, aussi très très bon. Il y a quand même un super effectif.
Il y a la possibilité de le prêter également, on verra.
Bah moi je l'aime bien, lui. C'est un sacré joueur, Ben Kedim.
Jean-Michel Aulas, tu veux en entendre parler?
Vas-y,
on y va. Jean-Michel Aulas qui met la pression sur Anthony Lopez. Vous savez qu'il a toujours pas prolongé Anthony Lopez.
Attends, il est à Lyon là, Aulas.
Un an de contrat.
Il est à Lyon. Comment ça? C'est pas son on est en août, c'est pas Saint-Tropez avec la.
Mais non, mais il a pas besoin. Il est sur son téléphone. Cui. Allez-y vous aussi.
Cui. Sur Twitter qui s'est prononcé. Je vous lis quand même le tweet. La prolongation d'Anthony Lopez, toujours au point mort. Soyons sérieux, les propositions faites à Anthony, 4 ans entre parenthèses, sont exceptionnelles, intègrent une concurrence saine comme dans tous les grands clubs européens. Juni et Silvio sont pros.
C'est quand même...
Silvio. Bah, il aime bien faire des abréviations, Jean-Michel Aulas.
C'est quand même. Mais c'est Sylvie, surtout.
Un homme moderne.
Silvio.
Il est quand même très. Mais beaucoup la pression, là, en l'occurrence.
Très Jean-Michel Aulas.
Mais vraie pression sur Anthony Lopez. Les conditions sont parfaites et lui, il n'accepte pas.
Ce qu'il nous dit, c'est que je pensais qu'avec l'arrivée de Juninho, on allait arrêter ses tweets intempestifs. Il avait dit. Non, mais je sais, François.
Il avait dit quoi?
Mais
moi, il arrêterait les tweets.
Non, j'étais naïf. Il avait dit qu'il se mettrait un petit peu en retrait.
En ce moment, il a des. a des agents roumains qui lui sautent dessus parce que Cyprian Tatarușanu, il lui a dit, tu m'as dit que je viens, je suis titulaire. Alors il a envie que la situation se décante.
Tout ça pour caler ton accent, quoi.
Non, je sais pas pour caler Tatarușanu, mais c'est ça l'histoire. C'est que Tatarușanu, il s'est dit, attendez, moi je quitte le FC Nantes.
S'ils lui ont dit, il y aura une concurrence.
Il vient pas pour être numéro 2. Il venait pas pour être numéro 2, l'ancien gardien de la FIO.
Le problème, c'est que Anthony Lopez, pour être sérieux, une minute, c'est que c'est un joueur qui représente beaucoup à l'Olympique Lyonnais. C'est un des derniers joueurs qui incarne vraiment l'esprit lyonnais. T'as eu un changement de paradigme où t'as vendu les bijoux de famille, les Tolisso, les Umtiti et compagnie, pour passer sur autre chose, prendre des joueurs qui viennent de l'extérieur. Là, Lopez, c'est le dernier un petit peu gardien
dernier
du temps.
Dernier rempart.
Tu vois? Et moi, pour moi, je trouve que ça serait important que l'OL garde Anthony Lopez, parce que d'une part, c'est un très bon gardien, mais d'autre part, il donne cet esprit, tu vois.
Un guerrier, un supplémentaire.
Mais ils veulent le garder, a priori. Ils lui font des propositions intéressantes, ils veulent le garder.
Mais lui aussi devrait rester, je pense.
Si lui, il est emmerdé par ce jeu de la concurrence avec Tatarușanu, il a peut-être envie d'être numéro 1 et il a ne pas avoir à regarder dans le rétroviseur.
Ou alors, il a peut-être tout simplement envie d'aller jouer au Portugal pour être numéro 1 en équipe du Portugal aussi.
Oui.
Parce qu'il a des offres au Portugal, apparemment.
Ouais, wow, des offres.
Les offres,
numéro 1,
viennent.
Numéro
ils, ont,
sélection,
ils, ont fait, ils ont fait signer un gardien Porto, là.
Oui, ils ont fait signer un gardien.
Ils étaient dessus, mais est-ce qu'ils l'ont fait?
Le sélectionneur du Portugal, il réagit un petit peu comme Didier Deschamps, il a besoin d'avoir
les signer. Ils ont fait signer Trapp,
le sentiment.
Ils n'ont pas fait signer Trapp.
Non, non, du coup, Trapp.
Non, ils n'ont pas fait signer Trapp.
Ils ont fait un gardien Porto.
Je ne sais plus.
Mais
le fait que Lopez fait partie de leur volonté
Lopez
sur le mercato.
Aille au Portugal, pas revienne. Aille au Portugal, oui, pourquoi pas. Après, pour en devenir numéro 1 de la sélection, je pense qu'il y a encore un peu.
Ils ont fait Augustin Marquezine, me dit notre producteur Jimmy, qui vient du club américain.
Argent
club américain.
Normalement, tu devrais.
Pas un très grand joueur, pas un très grand gardien. Et Anthony Lopez, il en a deux de Marquezine dans chaque main. Mais
bon. Bon, on les fait ces 11 là.
On va les faire. Tiens, il y en a un justement. Hashtag talent déchu.
On y est presque.
Gaël Kakuta.
Gaël Kakuta. Peut-être que vous auriez pu le mettre dans vos équipes.
Mais il a pas été quand même un niveau exceptionnel pour être
juste l'info.
Parce qu'il s'impose des règles en plus, François.
L'info.
Vous voyez, il s'impose.
Oui, oui. Mais il se met un cahier des charges, quoi. Un truc un peu pro. Il a joué 12 matchs en Liga au Rayo Vallecano l'année dernière, Gaël Kakuta. Il a 28 ans maintenant, donc peut-être qu'il va encore pouvoir relancer sa carrière. Il l'a fait il y a 2 ans en arrivant à Amiens. Et ben le président d'Amiens, Bernard Joannin, nous a confirmé l'intérêt du club pour Kakuta. Il a dit, on discute avec le Rayo, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, d'autres sur lesquelles on ne l'est pas. Croisons les doigts.
Et ben on va croiser
tout
les
ne
doigts.
Dépend pas de lui, mais on va croiser les
parce
doigts.
Parce que ça fera plaisir à mon ami Jean-Marc de la Maison du Whisky, que je salue encore une fois, tous les 15 jours à la Licorne, et qui espère grandement que Kakuta revienne.
Ce programme a recours au placement de produits.
Et puis on continue avec Château Neuf, là, on continue avec les Aubertan, les Gouffrand, les Yangambiwa, les Aïdara, les Sissoko, cette fois-ci Sissako.
Thauvin.
Sissako, ouais.
Thauvin à Newcastle.
Thauvin,
Moussa Sissako à Newcastle. Vous savez qui est Moussa Sissako? Non, Cole?
Non.
C'est un jeune du Paris Saint-Germain. Il a 18 ans. Ah ouais, c'est un défenseur. Il a jamais joué en match officiel avec le PSG. Ça fait plusieurs semaines que Newcastle travaille sur ce dossier. On connaît pas le montant des négociations entre les deux clubs. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on parle d'un contrat de 4 ans entre Newcastle et le joueur. Ça entre dans toute cette flopée de, probablement,
en tout cas, j'espère pour le PSG.
Exactement. Ça entre dans toute cette flopée de joueurs du Paris Saint-Germain des moins de 18 ans du PSG qui devaient intégrer notamment la réserve qui va être supprimée. Donc on trouve des solutions pour tous ces joueurs.
Ce sont des confirmations de Loïc Tanzi qui est au plus proche des Parisiens en ce moment. En tout cas, ça bouge pas mal pour ces jeunes là qui ont pris l'avion de retour.
Une dernière info France.
Oui, allez-y.
Dernière info France avec Faisal Farge qui retourne à Getafe. C'est là où il était juste avant de faire sa saison, sa belle saison quand même du côté de Caen, même si évidemment le club est descendu. Lui a joué 36 matchs, a marqué 5 buts. On avait quand même l'impression que c'était le joueur qui pouvait faire la différence pour le Stade Malherbe de Caen sur la pelouse.
Donc
il va quitter, peut-être le seul, effectivement, il va quitter le Stade Malherbe de Caen qui est maintenant en Ligue 2. Ouais.
63 joueurs à Monaco, vous savez quoi, il y en a bien plus encore à Chelsea, il y en a presque 70 et ils sont interdits de recruter cette saison.
Ils n'ont pas le droit de partir.
Voilà, pas le droit de bouger.
Ouais.
Celle-là, elle est encore extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, tiens.
Ouais. José Mourinho,
j'ai vu ça.
C'est lui, José Mourinho. José Mourinho qui a donné un conseil à Frank Lampard, qui lui a dit, pas besoin d'acheter un défenseur à Chelsea, il y a déjà Kurt Zouma. Voilà. Donc les espoirs de José Mourinho pour Kurt Zouma, il l'a dit dans un entretien à Sky. Je rappelle que Chelsea, hein, tu l'as dit, est interdit de recrutement et que donc pour le nouvel entraîneur des Blues, Frank Lampard, il va falloir gérer cette situation qui est quand même assez compliquée, cette interdiction de recrutement. Et donc il y a ce conseil de José Mourinho, faites confiance à Kurt Zouma. Zouma qui sort de deux saisons en prêt à Stoke City, puis à Everton. Bien. On l'a vu un peu mieux à Everton l'année dernière, même si bon, il a pas fait non plus une saison complète, mais effectivement, il a joué assez pour pouvoir retrouver les
François
Bleus.
Manardo va devenir fou, il veut absolument
Est-ce que
Giroud cette saison va redevenir avec Frank Lampard titulaire? Il y a déjà un gamin là, Tammy Abraham, à qui on a donné le numéro 9. Giroud, ça va être quoi encore cette saison?
C'est vous les consultants, les gars.
Eh ben on verra. Mais je pense que la structure de l'effectif de Chelsea, oui, il a des chances de jouer, oui.
Ah bah il va jouer après.
C'est lui.
C'est ça ta question?
Oui, bah oui, c'est 5-7 matchs en première ligue l'an dernier. Meilleur buteur de
c'est
Europa
lui,
League,
c'est
on
lui
le rappelle.
Qui va, à mon avis, qui sera titulaire avec Chelsea.
Mais il y a le petit Tammy Abraham, là, à qui on a déjà donné le numéro 9. Bref, j'aimerais bien
C'est question numéro, on s'en fout.
Non, je sais pas, on a l'impression que c'est effectivement.
C'est qu'un numéro.
Un tampon.
Ouais, c'est qu'un numéro, je sais pas.
Tu joues plus la carte de l'expérience avec Giroud qu'en donnant les clés à un gamin. Même si tu lui donnes le numéro 9.
Vous me rassurez.
Ouf, c'est peu de choses. C'est peu de choses.
On continue en Angleterre.
Oh mais non, mais on va arrêter, c'est pas possible.
J'y assiste toute la journée au troisième étage d'RMC. Elle est parfaitement produite. T'inquiète pas que tu le feras, ton 11.
Non mais on va le faire. Le mien. Jonathan, le mien. Thomas, il en a fait un. Toi, peut-être aussi.
Non, j'ai pas.
Les auditeurs, surtout.
Surtout les auditeurs, ce sont eux qui comptent. En Angleterre, Issa Diop qui fait l'objet d'une offre d'Arsenal. C'est le Daily Mail qui explique qu'Arsenal a fait une offre il y a 3 semaines à West Ham pour l'ancien Toulousain. Ça s'est pas fait parce que West Ham est ultra exigeant sur le dossier d'Issa Diop, réclame 65 millions d'euros.
Ah oui, carrément.
Ouais, bon, c'est un coup de marteau.
Anglais, non, mais c'est les prix anglais.
On en est, voilà, à des prix anglais.
Jonathan McCarty m'a pas dit celle-là, elle est nulle, tu fais un flop, t'en chères.
Non, je te laisse,
Il t'a dit beaucoup de choses.
J'ai pris cher déjà, c'est bon.
Non, c'est le petit bisutage.
Comment tu dois présenter? Enchaîne.
Faut l'aider.
Ton avant-bras saillant, ça fait un petit peu peur.
Comment?
Il faut l'aider. Ton avant-bras saillant.
Il faut l'aider. C'est pour ça. C'est sa première. C'est l'after. C'est pas.
Non. Continue sur la première ligue et la première ligue, évidemment, suis corporate. C'est chez nous de la semaine prochaine.
Absolument. On continue pas sur la première ligue là. Enfin, plus ou moins, on va faire un point sur l'échange, le fameux échange entre Dybala et Lukaku qui affole un petit peu tout le monde. Il y a juste une info qui est tombée depuis hier. Alors comme ça, on fait court et comme ça, tu peux vite filer vers ton 11 qui
est tellement Mandzukic de Jupo
que tu cherches tant. On a appris aujourd'hui que Paolo Dybala était de retour à Turin, qu'il allait s'entretenir avec Maurizio Sarri et discuter de son avenir. Ça fait partie des petites choses qui peuvent aussi permettre de lever le pied sur cette information qui est absolument pas sûre. Sky Italia en a parlé, a expliqué que le directeur sportif de la Juve était en Angleterre en ce moment pour négocier cet échange colossal entre Dybala et Lukaku.
Et Lukaku en Serie A, il aurait eu quoi, 3 ou 4 occasions par match, quand avec les Belges il en a 8 par match, le trompe-l'œil avec les Red Devils, enfin on aurait bien vu le niveau de Big Rom d'un autre œil, je crois.
Ouais. J'en ai parlé hier soir. Je me répète, hein.
Mais oui, et donc
j'ai dit, c'est le Mandzukic du pauvre. Ah. Je vais pas rajouter.
Tu parles de Lukaku. Big Rom, oui, le Mandzukic du pauvre. Oui, bien sûr.
C'est pas le même profil.
Ah non, mais.
C'est un joueur axial, non? Qui s'est joué en pivot.
Ouais, enfin non, mais il aime quand même un
mais
peu accélérer avec ce
T'aurais
qu'il peut.
Pu trouver un meilleur du pauvre, quoi.
Bah, Mandzukic, c'est un bon joueur.
Oui. Non, mais c'est pas vraiment le même profil, quoi.
Bah, moi, c'est.
Enfin bon, ce sont deux attaquants. Ouais. On te le passe.
Non, c'est-à-dire que Big Rom essaye d'avaler un peu de surface, mais il y a un surplus pondéral.
Bah oui, c'est ça.
Il a
ça.
Bouffé à la cantoche, donc ça
non,
marche
mais même pas.
Pas
le même profil, c'est un joueur. Alors Mandzukic, tu peux le mettre sur un côté parce que Allegri l'a aussi fait sur un côté. Alors que c'est un joueur que tu vois très grand, costaud et qui a pas une vitesse phénoménale. Mais bon, maintenant t'as un CR7, donc le côté gauche, c'est pour lui. Et même si l'âge avance, ça va continuer à être le cas. Mandzukic, il joue dans l'axe. Ouais. Lukaku, tu le vois jouer ailier?
Non, tu le vois pas jouer ailier, mais tu le vois plus jouer en remise, peut-être un tout petit
alors,
peu moins.
Qu'est-ce qu'il sait pas jouer en remise?
Si.
Non, mais je suis comme toi, je suis perplexe. On va tuer
la comparaison est chiffonnée.
Non, mais les deux n'ont pas le même profil du tout.
Voilà,
t'as un joueur qui est.
Non, mais dis-le, Jonathan, parce qu'en fait,
Lukaku, lui, pour le coup, c'est un joueur qui sait prendre la profondeur, par exemple.
Oui, qui peut.
Mandzukic, c'est un bon joueur de pivot. Lukaku,
et après il s'en mêle les pinceaux.
Franchement, ouais, bon, passons.
Passons et continuons en Italie.
Oui.
Avec des rumeurs, beaucoup de rumeurs sur le marché italien aujourd'hui, notamment à Naples, il y a la Gazzetta qui a fait un gros point sur le mercato aujourd'hui.
Ah.
Intérêt pour Wilfried Zaha de la part du Napoli, l'attaquant de Crystal Palace, 10 buts, 34 matchs l'année dernière en Première Ligue. Tu dis oh là là, je rappelle que Naples s'est fait piquer Nicolas Pepe par Arsenal. Et donc il pense à Wilfried Zaha pour le remplacer.
Donc il y a un profil qui a été défini. Il y a un profil qui a été clairement défini. Donc c'est le joueur de profondeur, voilà,
capable de partir d'un côté.
Mais j'ai du mal à voir l'adéquation de ces deux profils, de ce profil-là, que ce soit Pepe ou Zaha, avec d'une part le style de jeu de la Serie A et d'autre part avec les joueurs qu'il y a déjà au Napoli.
60 moi, millions d'euros, il serait prêt à mettre.
Ouais, bah non.
Mais si justement, non, enfin. Milik qui s'est fait les deux genoux, c'est quand même là pour le coup un peu plus axial, et tu veux une alternative avec Mertens et Insigne, parce qu'il y a quand même un profil à Naples. Mais payer 60 millions pour une doublure, c'est là que ça me
mais Insigne, il est plus sur la fin que ce qu'au début de son aventure.
Je pense qu'il ne cherche pas une doublure, il cherche un titulaire si Insigne part.
Il y a un problème avec Insigne, voilà, il a peut-être fait son tour en Napoli, il s'attend plus ou moins à un départ. Après, moi, si tu me dis que le remplaçant d'Insigne, c'est Wilfried Zaha, je vois pas du tout en quoi c'est la même chose, les deux joueurs.
Non, c'est pas la même chose. Peut-être que ça se rapproche plus de Nicolas Pepe, c'est ce qu'ils avaient visé.
Mais même la complémentarité.
Carlo Ancelotti a peut-être envie de changer un petit peu sa manière de jouer.
Ouais, mais je pense que surtout la priorité du Napoli, c'est de prendre un playmaker et il y a le Caramès qui embourbe un petit peu tout leur mercato, quoi.
Allez, deux autres choses sur ces infos mercato du jour en Italie et la Gazzetta dello Sport qui a pas mal bossé là-dessus aujourd'hui. Dejan Lovren en Italie, ça serait dans les tuyaux, notamment à l'AS Roma. C'est l'AS Roma qui serait sur le coup. Dejan Lovren, défenseur croate, je le rappelle, de Liverpool, et qui évidemment souhaiterait partir de Liverpool.
Il joue
parce
plus
que, simplement.
Parce qu'il a joué une douzaine de matchs.
Il ne joue plus. Il a joué très exactement 13 matchs.
La Coupe de la Ligue.
13 matchs en Première Ligue et 3 matchs en Champions League. Voilà.
C'est bien pour lui, il continue avec un talent limité de faire des beaux clubs, des belles villes.
Ce serait beau, la Roma, c'est bien, quand même.
Pour lui. Bah pour lui, ce serait beau. Ouais.
Où est-ce
pour
que Madame Icardi voudrait que Mauro aille? Et
justement, c'est la dernière chose que je voulais vous dire sur ce mercato italien. Mauro Icardi.
À ne pas confondre avec Madame Macardi, hein, qui gère moins la carrière de
Jonathan. Rien à voir.
Elles sont surtout plusieurs.
Ah bravo.
Non, je rigole. Mesdames,
je rigole.
Pas bravo, je ne sais pas.
Mesdames Macardi.
Ma seule femme, c'est Marinette, c'est mon chien, c'est tout. Mon cœur est déjà pris pour mon petit chien, mais bon, on enchaîne.
Terriblement triste.
Bah pourquoi?
Ton chien et ta femme?
Bah bien sûr.
C'est c'est la personne dans ta vie.
On divague là. Icardi.
Il est déçu par l'humain, Jonathan.
Faut qu'on sorte. Icardi à l'Inter. Il serait de plus en plus proche, effectivement, de rester à l'Inter et non pas de partir, puisque seule la Juve intéresserait véritablement Mauro Icardi. Comme la Juve, on en a parlé, et plutôt sur Lukaku ou sur ce profil, Icardi a peu de chances de partir de l'Inter, d'après la Gazzetta.
Et ben. Après tout ce qui s'est passé cette saison, qu'il refasse une saison à l'Inter.
Il est courageux.
Ouais. Il est courageux ou pardonne-moi le mot, il est très con.
Il est très mal,
après,
mal
bouger,
conseillé,
hein.
Peut-être.
Je rappelle qu'on est à un tout petit peu plus d'une semaine de la fermeture du marché anglais. On a vu aujourd'hui que ça commençait un peu à s'activer, à lancer des chiffres et des offres de partout.
Franchement.
Je pense que ça va continuer à s'accélérer.
Mauro Icardi, M9, borderline, à la limite d'être un talent déchu.
Non, tu rigoles. Mais arrête de dire des sottises, t'as vu le nombre de buts qu'il a mis à l'Inter.
Il va à chaque fois. En fait, je vous
ai dit. Non, mais là, il a raison de jours, sauter dessus.
C'est pas ça.
C'est pas possible.
Mais évidemment qu'il a été extraordinaire, mais depuis. À cause de sa femme, il tire un.
Ça fait deux mois.
Ça, mais j'aurais espéré que celui-là soit le meilleur attaquant argentin depuis quelques saisons.
Ah.
Meilleur
que Kunagoro.
International. Évidemment que ça fait trois saisons qu'il met plus.
Meilleur que
25 buts.
Ah oui, c'est dur d'être meilleur que Kun, hein, quand même.
Ah, c'est dur, vous pouvez rentrer dans la concurrence, c'est dur d'être meilleur que Kun. Que fait l'Argentine depuis 6 ans?
Le problème, c'est qu'Icardi, il est un peu tricard en sélection. C'est surtout ça le vrai sujet.
Le final de Copa América. Ça va, non? Bah, c'est pas gagné, mais bon. C'est pas méprisable, hein, de finale de Copa América, une finale de Coupe du Monde.
C'est clair.
L'Argentine, équipe de talents déchus. Non, je plaisante. Merci.
Tu vas vraiment l'énerver.
Voilà, c'est ça.
J'ai pas préparé mon 11.
Ah bah va bosser et reviens dans un instant effectivement.
Non, mais tu vas commenter qu'il doit jouer en pointe.
Ah il échappe point. Il échappe.
C'est bon, il joue
32-16.
Je donne mon avis mais je ne prends pas ton
Paul,
salaire.
Dans un instant, il a un avis. Si je vous parle El Flaco, ça va vous parler. Et Paul aussi va en parler dans un instant. Ils ont bossé depuis hier. Il leur a envoyé un texto. Jimmy, faites-nous votre 11 des talents déchus. Il y en a qui parlent des franco-français et l'autre un 11 mondial. Allez-y, réagissez avec nous. 32-16 hashtag RMC Live.
Joatin, il fait tes lancements. Angie Joatin,
merci
fais
beaucoup.
Le conducteur.
On se retrouve quand, samedi, d'émission. Dimanche.
Oh, je vais regarder le planning et je t'envoie un texto.
Voilà, avec plaisir. On sera là ce week-end. Restez avec nous.
Ciao, Angie. Merci.
Salut, jusqu'à minuit.
RMC. L'afterfoot. Thomas Desson.
On peut même dire que c'est la dernière mi-temps de la prolo avant les tirs au but. Ça fait
regarde
cette tablette, cette tablette est fournie fort achalandée parce qu'on va vous parler.
Il y a plein de bons souvenirs
du 11 des talents déchus. Vous savez les genoux, les croisés, le mec accoudé au comptoir qui vous dit
j'aurais pu être
une grande star.
Il y a plein de choses.
Il y en a des milliers.
Il y a les blessures,
la cigarette. Les femmes,
tout. Non, il y a plein de choses. Il y a le mental après qui a pas tenu sur la durée.
La nicotine pour Verratti, ça ne l'empêche pas d'être
performant. Ne prends pas non pas de.
Non, mais tiens, on parle de José Touré, c'est pas que la nicotine. Hein.
Tiens, ça nous fait penser à un petit truc. Quand on était un grand talent et qu'on est déchu, on est un peu comme disait Jean-Pierre Madère. Les jeunes disent hashtag gênance. Alors la tête de Jonathan McCarty, là, il se frotte un peu la tête.
Oui,
c'est pas possible, ils ont sorti un truc pareil. Mais non, il est des trucs des années 60.
Ah, mais ça, des années 80, il était pas né.
Alors messieurs, la consigne était simple hier. Ils auraient pu ou ils auraient dû avoir une plus belle ou une meilleure carrière. Parce que à l'étape d'espoir ou dans la dernière ligne droite avant d'être un grand professionnel ou avant d'avoir un grand contrat, eh bien quelque chose s'est passé.
François, c'est les Icares. Ils ont tutoyé la lumière et puis ils se sont écroulés.
Qui veut débuter?
Allez François.
Non, vas-y.
Ah regardez, non, après
François. Je vais avoir le mot de la fin. Bon.
François.
Oh mais moi je commence.
Allez, avec plaisir.
Elle s'affiche.
C'est ton 11 des talents déchus.
C'était important que je te l'envoie.
Pour les gens qui sont chez eux et qui nous regardent sur MC Sport News, ils demandent son infographie. Mais on a besoin de l'entendre à la voix, bien entendu. Le 11 de François Manardo.
Français et puis un tout petit peu international. Alors, dans les buts, Sébastien Frey, vous vous en souvenez, gardien formé à l'AS Cannes qui part très tôt à l'Inter Milan et qui va être prêté aussi rapidement parce qu'il y a une concurrence féroce à l'Inter. Bref, on l'annonce comme le futur grand gardien de l'équipe de France. Résultat, deux sélections dont une mauvais souvenir puisqu'il encaisse un but casquette en Ukraine en match de qualification.
C'est l'un des hommes les plus gentils du football que je puisse connaître, mais aussi large que haut en ce moment.
On l'a lancé avec un talent très important.
Vu la carrière qu'il a fait après à la FIO notamment.
Il fait une carrière en Italie, mais par
carrière.
Rapport à la carrière internationale...
Attends, juste avant que je poursuive.
Il n'est pas du tout à la hauteur de son talent.
Je pense qu'on n'a pas compris le thème de la même manière. Ça, c'est
peut-être
Jimmy
parce que toi, il y a des noms...
En fait, toi, c'est des joueurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient mérité par rapport à leur talent, même s'ils ont quand même eu une belle carrière.
Exactement.
Ok, moi, j'ai pris que des joueurs qui ont eu des carrières, qui ont annoncé comme des cracks et qui ont eu des carrières flinguées.
Attendez, on fait une petite digression parce que ça, c'est difficile. Avez-vous trouvé un gardien? Parce qu'effectivement, quand on pense talent déchu, on pense souvent milieu offensif, créateur, etc.
Oui, oui.
Vous avez un gardien?
Oui. D'accord.
Eh ben, on va continuer sur ce 4-4-2.
Donc, latéral droit, pour ceux qui s'en souviennent, il fait une très grosse saison avec le Sao Paulo FC. Ensuite, il est transféré au Real Madrid. Wow. C'était Cicinho,
Qui
était le successeur de Cafu. Alors, 15 sélections avec le Brésil. Mais ensuite, au Real, ça se passe pas bien. Il est transféré à l'AS Rome, où il joue. Mais là aussi, il va vers la pente déclinante. On le revoit plus en sélection. Ouais. La vitesse, la technique, la puissance, très bon aussi pour défendre et bon pour contre-attaquer. Bref, un flop du gâchis. Dans l'axe, c'est franco-français. Philippe Mexès.
Ah non, Mexès, non, je peux
Christian Val. Par rapport à son grand talent qu'on lui prédisait, il y a deux obstacles qui se sont dressés sur sa route, malheureusement au niveau international. C'est le mental au très haut niveau qui l'a desservi parce que un garçon trop gentil, trop sympathique, et puis barré par un sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, pour pas le nommer, qui n'en voulait pas.
Si vous l'avez fait. Mais c'est surtout une période où les Bleus sont au plus mal en fait, Philippe Mexès, parce qu'il est capable de vous mettre des tournées acrobatiques avec le Milan à l'extérieur de la surface.
Cette année à Rome, une légende à Rome. Oui. Tu peux pas dire que c'est un talent déchu quand même, François.
Au niveau international et de ce qu'on aurait pu attendre de lui.
Ok, je pense qu'on a compris le thème différent. Ok, oui.
Mais dans ce cas-là, il a pas tort.
C'est dur quand même.
Mexès, à un moment, il vous est vendu comme Van Dijk, comme le meilleur défenseur du monde.
Il est vendu comme un très bon défenseur.
Comme le meilleur défenseur de
Serie A.
Pendant 2-3 ans d'affilée.
Qui donc était le meilleur championnat et donc ça en faisait le meilleur défenseur.
Il est très bon à l'AS Rome.
On est à une époque où le ballon d'or est un défenseur central.
Il est très très fort avec l'AS Rome, mais encore une fois, je vous dis, au niveau international, voilà, il y a deux choses qui l'ont barré. Philippe Cristanval,
c'est dur, hein,
quand même laissé les sélections.
Effectivement, 29 sélections en équipe de France, on pouvait s'attendre à un mec qui aurait tapé 85, 90, 100 sélections.
Sélection. Et en plus, quand tu regardes ces sélections, il est sélectionné très tôt, je crois, par Santini. Et puis après, il a une grande traversée du désert. Il revient en équipe de France après
c'est dur quand même, hein.
L'Euro 2008 qui est catastrophique.
Il y a les périodes des équipes. Auxerre est flamboyant à l'époque avec ses jeunes. Et ensuite,
il fait un match catastrophique avec les Bleus en Autriche.
Moi, je vous trouve très, très, très dur. Cristanval, ok. Cristanval, sur les milieux.
Aussi,
oui. Allez-y.
Et Drenthe aussi, très bon choix.
Ah oui.
Non, alors, moi, après, c'est mes choix. Je les trouve bons, hein. On va critiquer les tiens ensuite.
Royston Drenthe,
Mexès,
je l'avais pas mis de ce côté. Non, Ba, il était à droite. Ibrahimba.
Ibou.
Un talent exceptionnel.
Il a un truc contre les mecs du Milan, je crois.
Des débuts fracassants en équipe de France. Et puis, il se liquéfie. D'ailleurs, il se liquéfie. Ba aussi, c'est un bon saison à l'AC Milan.
Ça, c'est très, très intéressant. C'est l'ancien attaché de presse de l'équipe de France qui nous parle du substitute Vikash Dorasso.
Ouais, mais Vikash Dorasso, il fait une belle carrière, et puis ça, je trouve que ça plonge avec le Milan AC, il joue 12 matchs, en Italie, sous la houlette d'Ancelotti, et là aussi, c'est un joueur qui, au moment peut-être de, non pas d'exploser, parce que il avait fait ses preuves avec l'Olympique Lyonnais, il avait explosé au Havre, et ben là, après, il coule, et avec le Paris Saint-Germain, ça se passe pas beaucoup mieux, mais bon, pour après d'autres saisons.
C'est dur tellement déchu pour Dorasso encore.
Il gagne, c'est des joueurs, pour moi, qui n'ont pas été au bout de ce qu'ils auraient pu faire. Alors, au milieu, je suis aussi dur, sévère, avec Abou Diaby et Hassan Diarra. Les deux, pour moi, c'était Pat Vieira et Makelele. Makelele dans le rôle de l'As, et puis Vieira, Diaby. Et il y a un destin, alors on a parlé de mental, on a parlé de blessure pour Diaby. L'As, c'est pas le mental. L'As, c'est à un moment donné aussi des mauvais choix en club qui le font sortir des radars, qui l'isolent un petit peu au niveau international.
Il y a les 46 blessures pour Diaby. Je veux pas faire de la psychologie comptoir, mais là on voit bien que votre ancien métier vous a marqué, parce que c'est un problème de période là aussi. C'est la comparaison, vous l'avez dit, Vieira Makelele qui plombe Diaby, parce qu'on avait des profils.
Abou, c'est vraiment les blessures à répétition. Abou, il est avec nous en équipe de France pour la funeste Coupe du Monde 2010. Ça reste ce qu'on peut qualifier entre guillemets de notre meilleur joueur. Il a été en pleine possession de ses moyens, et à bout, il avait tout, et je lui trouvais même un peu plus de finesse technique, qui était déjà très importante chez Pat Vieira, mais il avait. À bout, pour moi, c'était vraiment le joueur du 21e siècle. Enfin, le joueur du 21e siècle.
Non, mais quand on fait Kanté, Pogba, il y a encore le spectre de Pat Vieira et Claude Makelele.
Mais là, ce que je veux dire en équipe de France. Quand même, les gars.
L'As,
il a fait quand même 4 belles saisons au Real, il a joué dans des gros clubs, que ses choix de carrière, talent déchu, c'est quand même.
Et vous voyez qu'il a bossé. On va regarder le tandem, les deux de devant, un gamin et un ancien.
Boyan avec Barcelone. Bah alors, il gagne des titres, hein. Il est champion d'Europe avec le Barça.
Ça date
il a tout gagné avec le Barça d'ailleurs. C'est un joueur qui peut jouer aussi attaquant. Après, moi, j'ai fait ce 4-4-2 pour caser les joueurs que je voulais caser dedans. Et bon, c'est un joueur qu'il a reconnu lui-même. Là, c'est au niveau du mental. Il fait une longue dépression nerveuse. Et puis, il n'arrive pas à être assez régulier et à peut-être à endosser l'étiquette aussi, comme beaucoup de ces joueurs.
François.
Mise et qui s'est révélé être trop lourd. Et je termine par José.
Tu as mis le
Touré,
Brésilien, 1983. Le Brésilien. Moi, je suis nantais, j'ai pas cet âge-là, donc le foot, ça commence un petit peu plus tard. Et la légende me dit que c'était le plus grand joueur de Nantes. Alors, il manquait
c'est
quoi
dur. C'est un joueur exceptionnel. Après, c'est pas ce qui manque, c'est ce qui arrive. Il se blesse gravement au genou dans un match de Coupe d'Europe contre l'Inter Milan. Il rate la Coupe du Monde 86. il quitte, il devait Allant quitter déçu, Nantes.
C'est dur, hein,
le PSG ne le prend plus. C'est Bordeaux qui le récupère. À Bordeaux, ça se passe plus ou moins bien. Mais il n'est plus du tout sur le niveau qui était le sien.
J'ai le sentiment que dans ton 11, dans la carrière, c'est plus du mental, des fils qui se touchent ou un écorché vif.
Ça qu'on constate. C'est toujours, à un moment donné, c'est toujours soit la blessure, soit l'étiquette qui est trop importante et qu'ils n'arrivent pas à endosser, soit des mauvais choix de carrière. Quand on a ces talents-là, puisqu'on a parlé d'Atem Ben Arfa, qui est un joueur qui a un talent extraordinaire, mais qui n'a pas du tout, et il a sa grande part de responsabilité, la carrière qu'on lui promettait, ça reste le mental.
Il y a autre chose avec Atem Ben Arfa, il y a les propos qui sont parfois pas... les propos qui vont beaucoup trop loin par rapport à la qualité intrinsèque. Il se voit parfois trop beau, Atem Ben Arfa. J'ai pas l'impression.
Oui, mais les propos, c'est la littérature. Après, moi, c'est les choix. C'est les choix de club, les choix, parfois même les choix d'agent, c'est le choix de l'hygiène de vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Franchement, ton équipe, talent déchu, c'est dur, parce que t'as quand même beaucoup de joueurs qui ont fait des grosses carrières, quoi.
En club, il y a des carrières qui sont plus qu'honorables en club. Ouais. Mais pour moi, après,
c'est pas vraiment talent déchu.
Le hashtag 11 de bon à rien de Jonathan McCarty, ça va être finalement encore plus bon.
Mais alors, dans les cages, je vais mettre, on a l'infographie ou pas? Non.
Bon. Oui, mais déjà pensons aux auditeurs.
J'ai pas mes lunettes dans les cages, mais Vincent, je mets Yoann Pelé, parce que Yoann Pelé, bon, c'est un peu dur encore une fois, parce que il a fait une petite carrière en Ligue 1, mais on l'attendait comme un gardien énorme. Et puis là,
la dernière fois que vous avez vibré les supporters marseillais, c'est parce qu'en Europa League il y avait Pelé.
Il était amené à être être un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Au final, voilà, c'est une doublure.
Tu vois, on va se rejoindre. C'est un nom sur lequel j'ai hésité et je lui trouvais finalement un peu plus dans les talent qui, à un moment donné, ont tutoyé Farid Mandragon.
Aussi, ouais.
Et, pour ceux qui s'en souviennent, Stanley Menzo, qui est très bon avec l'Ajax. Il arrive à Bordeaux, et là...
Quand tu passes ta vie numéro 2.
Non, mais je te dis, c'est dommage, parce qu'on voyait, le futur en équipe de France, l'Albator, etc. Alors, en défense, j'ai une défense avec Tico.
L'Albator, Albatros.
Tico, Christian Valve, Fatih. Alors, Tico, le capitaine de cette équipe qui gagne l'Euro 2004, les U17, on disait, c'est le nouveau de Saï, il va être énorme. Au final, il a rien fait de sa carrière, il a jamais su s'imposer, il a fait un peu le globetrotter, il a joué en Roumanie, au Portugal. Bon, voilà, on n'a pas eu la carrière qu'on attendait. Christian Valle, pour les raisons évidentes, le transfert au Barça, après l'arrivée à Marseille, au final pour finir à vendre des diamants à Londres. Bon, carrière vraiment talent déchu. Ricardo Fati, pareil, quand il sort, tout le monde s'attend à ce que ça devienne un défenseur énorme. Puis patatras, il y a le transfert à l'Olympique de Marseille où ça se passe pas bien du tout. Il va à Sochaux. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, et il va à Sochaux. Et puis voilà, au final, il fait plus rien et finit sa carrière sans vraiment avoir pu, avoir la carrière qu'il aurait mérité. Au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain rempli de nouveaux Zidane. Alors, Marvin Martin, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de photos. Il y a le doublé, la double page avec signé MM. Et puis au final, même à Dijon, il a pas réussi à s'imposer. Je lui mets Johan Gourcuff. Alors Johan Gourcuff, pour moi, c'est un peu dur parce qu'au final, il a quand même été champion avec Bordeaux et puis il a fait quelques bons matchs avec Lyon. Mais Johan Gourcuff, c'est mon petit choix perso parce que c'était un des joueurs que je préférais voir jouer. Son élégance, sa qualité de passe, sa frappe, sa vision du jeu. Et au final, de le voir là, pas capable de s'imposer à Dijon.
T'oublies un détail sur Yogo Gourcuff, alors. C'est qu'il fait aussi de très bons matchs avec l'équipe de France.
L'équipe de France, il y a ce but là en Roumanie, là, la frappe sous la barre.
Sa première sélection contre l'Ukraine où il fait une passe d'aise pour Nico Anelka. Non, il y a aussi de très bons matchs. Et puis après, patatras.
Moi, je vous dis, je m'attendais à ce que Gourcuff, il y a Platini, Zidane et puis Gourcuff. Donc au final, la déception ne peut être que plus grande.
Bon, Jonathan, on va justement prendre un de nos auditeurs, Jean Aurel, qui veut nous parler de Gourcuff. Pour lui, c'est le talent déchu.
Dans la compo, il faut qu'il nous explique des choses, parce qu'à mon avis, à la régie, parce que Mourad Meghni, latéral droit.
Latéral droit, mais.
Bah oui.
Mais il voulait faire rentrer ses 11.
L'équipe, elle est branlée bizarrement. Ouh, c'est pas comme ça.
Vincent Périgna.
C'est plus haut. Jean Aurel, vas-y, Gourcuff, pour toi, c'est talent déchu par excellence. On oublie ce qui s'est passé à Bordeaux avant.
Oui, déjà bonsoir à tous.
Salut, Jean Aurel, on se tape tous les soirs.
Deux soirs de suite, sur Velardo, donc c'est un plaisir toujours. Donc oui, effectivement, Johan Gourcuff, nous, il nous a régalé à Bordeaux. On pensait tous le voir dans un top club. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il faisait même la jaquette de FIFA comme c'était déjà un top player à l'époque. Et puis aussi, ce que vous abordez pas, c'est que quand il part à Lyon, donc pour à peu près 23 millions d'euros, je crois,
c'est ça.
Finalement, il scelle une autre politique de Lyon, puisque Lyon bascule dans une autre politique.
Avec Lisandro, avec Bafé Gomis et compagnie, ouais.
Ouais, et Lyon bascule dans une autre politique sportive après, notamment sur la mise en valeur de jeunes.
Exactement.
Avec Rémi Garde, etc. Donc c'est un petit peu la fin des millions, entre guillemets, hein, de Lyon. Bon, après, on sait ce qu'il a fait à Lyon et pas grand-chose, malheureusement, mais on le voyait tous crever l'écran. Et vous avez parlé de ses performances en équipe de France. Effectivement, il sauve un petit peu Raymond Domenech en Roumanie. Quand
non,
même,
pas un peu, complètement.
Donc il peut Raymond peut
ah oui, réellement oui. Le remercier. Il va bien remercier puisqu'il a dégagé sur le deuxième match contre le Mexique. Bon allez, on arrête.
Donc moi ça restera un grand regret, surtout quand en tant que supporter bordelais, bon déjà dès les premiers matchs à Bordeaux, il nous a régalé, je pense, à ce but contre Caen.
Contre Paris, le but contre Paris là.
Bien sûr, bon celui-là il a fait le tour de YouTube. Mais ça commence déjà avec Caen sur une première frappe, c'est un de ses premiers matchs à Bordeaux. On est allé.
Oui, je me rappelle.
C'est la fin de l'été, c'est une frappe ouais. Un peu détournée, mais déjà dans son positionnement, dans sa technique de frappe, on sent que.
Et qu'est-ce qu'il était beau à avoir joué.
Ouais, putain. Ouais. Il avait son style de jeu, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, ou avec des jeux avec des ailiers très rapides. Mais il avait son propre jeu, et comme tu l'as dit, Jonathan, il y avait Platini, Zidane, et tout le monde pensait qu'il allait avoir Gourcuff derrière. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Aurel. On va marquer une petite respiration, hashtag teasing, pour connaître la suite du 11 talent déchu de Jonathan. Il faut revenir dans un instant. Je remercie votre participation sur le hashtag RMC Live. David Bancel, tiens, on cherchait un gardien, les gars, nous dit Charlie Tange. Évidemment, dans les bus, ça aurait pu en faire partie. Ou encore Seven qui nous dit il manque Michael Pagis, qui malgré Marseille.
Mais c'est pas, mais non.
Oh là là, on va le couper là-dessus. Aurait mérité de jouer dans un plus grand club encore.
C'est autre chose.
Aïe, 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 il va nous dire Jonathan McCarthy. À tout de suite. C'est l'after.
Sur autre chose.
RMC. L'after foot. Thomas Desson.
Avec François Malardo et avec Jonathan McCarthy et avec Paul qui attend depuis un bail. Paul, t'attends un bail. En plus, on était en train de parler de régaleurs, de milieu offensif. Et toi, t'en as deux par excellence que tu veux évoquer.
Ouais, mais du coup, vous m'avez fait penser à des gars que vous n'avez pas cités. Moi, dans les cages, j'aurais mis Christophe Revault, étant parisien.
Il fait une belle carrière quand même en Ligue 1, Christophe Revault. Hein.
Mais non, ouais, on le présente pas.
On l'attendait
plus. Futur crack. En plus.
Bah, ceux qui auraient pu tutoyer les étoiles et qui finalement ont sombré. Hein. Moi, j'ai.
On finit pas l'équipe là.
Attendez, parce que ça participe. El Flaco, Javier Pastore, c'était un de tes exemples, Paul. Oh, il est fort celui-là.
Ah bah, non, il prête à débat. Malheureusement, je pense qu'il aurait pu rayonner encore plus que ce qu'il l'a déjà fait dans les équipes. Mais ayant entendu la définition que M. McCarthy était en train de donner tout à l'heure, c'est vrai que je remettrais un petit peu Flaco.
Paul, la définition, ils l'ont fait évoluer au fil de l'émission.
Je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire que pour décevoir, Flaco, il faut avoir satisfait à un moment donné.
Moi, je suis un amoureux de Flaco, c'est pour ça que je le mets dans la liste.
Ah, t'inquiète, il va aller en Argentine. Voilà. Il va rentrer en Argentine et il va faire comme Riquelme. Ça va devenir une légende là-bas.
Il y en a un autre qui est devenu joueur de poker, que tu nous as glissé, Paul, que je trouve très bon. En tout cas,
moi, c'était
suggestion.
Le premier qu'on avait qualifié comme prochain Zidane, c'était Kamel Meriem.
Oui.
Eh oui.
Mais il a fait une belle carrière en Ligue 1.
Ça s'en rapproche, Kamel Meriem.
Ouais.
Ça s'en rapproche.
J'ai hésité, mais il a quand même fait une belle carrière en Ligue 1.
Et finale d'Europa League avec Marseille. Aussi, ça s'en rapproche.
Merci, Paul. Tu restes avec nous. Ciao, ciao. On finit avec le 11 des talents déchus de Jonathan McCarthy. Parce qu'il y en a. Ils sont entrés dans le casting.
Bah, alors, la mise en place tactique, là, c'est n'importe quoi. C'était pas ça, mais bon.
Oui.
Devant la défense.
Ne fiez pas à ça. Les noms.
Vas-y, vas-y. Ahmed Yayaoui, on nous l'annonçait comme le. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était le meilleur joueur de cette équipe U17 qui gagne la génération 87, qui gagne l'Euro là avec Nasri, Benzema, Ben Arfa. Il y avait Ahmed Yayaoui. Tous les Espagnols, ils sont tombés fous après son match en finale là contre l'Espagne gagné par l'équipe de France. Et puis au final, voilà, bon bah il a fait 3-4 matchs à l'OM, ça se passe mal. Un entourage peut-être pas au niveau, il va à Istres et après c'est un petit peu la descente aux enfers, il joue à Oran notamment, et puis il a fini sa carrière un petit peu dans l'anonymat alors que vraiment beaucoup de gens pensaient que ça allait devenir un gros pilier de l'OM.
Ouais.
Après bon bah Mourad Megni, même si j'ai eu un petit peu de mal à le mettre parce qu'il a quand même fait
avec Bologne,
la Lazio aussi,
Bologne, en Italie, il fait une carrière nette.
Mais
il fait le choix de l'Algérie il y a 10 ans, à l'époque c'est peut-être un bon choix.
Il est champion du monde U17 à Trinité-Tobago avec l'équipe de France.
Ouais.
Et puis, comme beaucoup, même s'il y en a un d'ailleurs qui est champion du monde qui est dans l'infog de Jonathan, à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas le niveau. C'est pour ça que là où on n'est pas d'accord, c'est entre vraiment percer le plafond de verre et puis après chuter et puis s'approcher de ce niveau-là
et puis en fait pas convaincre.
Ouais, bon, ça c'est l'histoire éternelle du foot. Hein.
Mais au moins, les agents de l'église,
super joueurs, les entraîneurs vont avoir les mêmes qualités.
Mais au moins, nos deux équipes, on a les deux exemples.
Moi j'ai une question. Sinama Pongol, je dévoile le truc, mais pas le Talek.
Non, parce que le Talek, encore une fois, carrière honnête en Ligue 1 après. Il a rendu des services. Il a rendu des services à des clubs de Ligue 1, le Talek. Donc je trouvais ça dur et puis il fallait faire un choix. Donc Ben Arfa, je l'ai mis parce que voilà, même s'il a quand même fait une belle carrière, lui il avait un talent monstre et puis on en a parlé très longuement dans l'émission, donc il a sa place de choix dans l'équipe. Sinama Pongol plutôt que le Talek parce que lui pour le coup sa carrière, voilà, ça a été vraiment n'importe quoi. Et devant, j'ai mis Vincent Péricard, l'homme qui vaudrait des milliards, qui était passé chez Julien Courbet, qui signe pour 8 millions d'euros à la Juventus et qui a enchaîné une longue descente aux enfers après pour finir dans l'anonymat le plus total alors que ça devait être la nouvelle star, ça devait être, à l'époque, on nous présentait comme on nous présentait Mbappé quand il avait 17 ans. Donc tout le monde s'attendait à des trucs de fou avec lui et au final, il aura rien fait.
On a oublié d'en présenter un. 17 passes décisives avec son compère qui revient, Riyad Boutbouz. Deux buts.
C'était la une du lendemain de son doublé, là, signé MM pour faire les comparaisons avec Zidane. Première sélection, deux buts. Et au final.
Il est sélectionné pour l'Euro 2012.
J'avais oublié ça, ouais.
Il est sélectionné dans les 22. Et alors, entre le Talek et Sinama Pongol, il y a quand même une petite différence. C'est que dans cette génération championne du monde U17, mais on le sait tous dans l'after, entre le niveau des U17 et puis l'équipe de France, c'est pas un gouffre, c'est un océan. C'est le seul qui a réussi à avoir une sélection dans un match amical. Mais il a eu quand même une sélection avec l'équipe de France, Sinama Pongol.
As-tu parlé de ton attaquant de pointe, Jonathan?
Vincent Péricard.
Non, c'est Jimmy.
C'est bien que tu suives.
Je suis impatient de vous offrir un petit quiz.
Après, il y a des mentions. On pense à d'autres joueurs aussi qu'on peut mentionner.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais justement, on va le faire en quiz parce que il y a pas mal de joueurs que j'avais. J'avais Maigny, j'avais Marvin Martin avec vous, j'avais Christian Valls, Steven
Balotelli dans les déceptions. Voilà.
On est dans le monde. On va élargir un petit peu. Avec Florian qui est avec nous, tu veux jouer avec qui? François Manardo ou Tim McCardy? Tu fais ton choix.
Florian. Je vais jouer avec le seul fan de musculation et de Samuel Beckett.
Merci.
C'est François Manardo, j'ai tout compris. Donc, Flo est avec.
Merci d'avoir avec compris Jonathan. La blague que personne n'a compris
Karim,
pendant toute la saison.
Tu vas être avec. Ça tombe très bien, tiens. Flo, supporter de l'OM et on reste cordial, hein, messieurs. Et Karim, supporter du Paris Saint-Germain avec François Manardo.
Salut, salut Karim.
On a des petits t-shirts qui traînent, messieurs, vous restez après au 32-16, pour le vainqueur, on organise ça. L'an dernier, c'est sous une forme de quiz, hein, on est toujours sur ses talents déchus. J'évoluais au Las Vegas Lights, en deuxième division aux USA. J'ai marqué un but en 3 ans, donc la lumière n'est pas vraiment revenue. Je suis plutôt une légende du football. Freddy Adu. Le mec a 14 ans à Washington, on peut parler
Nike,
derrière.
Nike, ils nous l'ont bien vendu.
C'était Pelé, tu te rappelles?
Oui.
On avait peur quand Pelé a doublé Mbappé, parce qu'on s'est dit, s'il faut, il y a le syndrome Freddy Adu qui va.
C'était Pelé, P-E-L-E-T. Hein.
Ouais.
Flo et John, 1 point. Karim, François, 0. Je signe Arsenal à 16 ans. Cette précocité incroyable à l'époque de l'avant des années 2000 en Youth Cup, le coach me fait rejoindre l'équipe première, Wilton, Nwankwo Kanu, Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Je suis même passé dans le vestiaire l'an dernier sur RMC pour redire qu'effectivement mon entraîneur m'avait soutenu jusqu'au bout, mais quand j'ai quitté ce club-là, il l'avait sur le bout de la langue, le bout du chicot. Karim, t'es où? T'es avec nous quand même?
Je suis loin là. 2Z.
Continue d'écouter mon pote Karim.
Allez, une petite dernière pour la forme. C'est de façon décroissante. Il est prêté à l'heure actuelle à la Real Sociedad. Il est passé par Vitesse, Erenvin.
Ah putain.
16 ans. Babel. Lui aussi, on en faisait une pépite. Pas de Ryan Babel, pas de David Ngog.
C'est le Norvégien Odegaard.
On va l'accorder. C'est Karim ça.
Oui.
Karim de Buzyn, Martin Odegaard, 16 ans.
Allez, Flo.
Et au Real, on savait plus. Eh ben, alors attendez, je vais
rechercher
sur ma feuille. Qu'est-ce que j'ai? Parce que de 1, il faudrait
appeler
le point final, mais. Aidez-moi en régie, les amis, parce que j'en avais 6 de côté, je cherche en quiz.
Il y a 6, on m'a donné.
Non, j'en avais 6, mais il y en a 3 qui étaient en commun avec les vôtres. Je vais pas te refaire. J'ai 20 ans, je suis parti au Barça, je suis défenseur central.
Ce serait
Christian Val. Je crois qu'ils ont gagné par 2.1, mais effectivement, il y en a des milliers.
Bravo.
Et la prochaine fois, c'est à nous, avec Jimmy Brown, d'être plus carré sur la nomenclature. Talent déchu, c'est quand même l'histoire d'une vie, ça. Hein. Les mecs au comptoir qui te disent, j'aurais pu, c'est quand même un sport qui peut te laisser sur ta faim ou un peu aigri.
Oui, 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 c'est dur. Moi, j'ai souvenir des mots de Philippe Mexès qui un jour me dit moi, je suis trop gentil dans ce milieu, et ça m'a toujours desservi, même s'il fait une très belle carrière en Italie, certes. Mais voilà, c'est touchant parce que tu vois le talent, mais derrière le mental, forcément. Alors que d'autres joueurs, moins de talent, et un mental de tueur.
Hé, hey, François, pêle-mêle là. T'en avais qui, t'as pas cité ?
Et mettre dans ton équipe.
Oh.
Moi, j'ai pensé à Kerlon, vous rappelez Lotari là. Qui est-ce que t'as
qui est-ce que j'avais encore enfin, c'est marrant parce que maintenant que tu me poses la question, il y a un nom qui m'échappe, mais allez, ça va me.
Ce qui revient surtout, c'est ces milieux offensifs. Il y en a pléthore, mais
les nouveaux Zidane, c'est le syndrome
Paganelli, Rousset. Paganelli, Rousset.
Belle carrière, Paga, quand même, à tout le monde après.
On parlait des défenseurs tout à l'heure.
Paga,
Dalmat, ouais, Peter Luxin.
Bah, Dabo,
Peter
Luxin,
Ousmane Dabo.
Il a fait une super carrière.
Vous voyez, Luxin, finalement, après, on va continuer le débat sur le hashtag RMC Live.
Jean-Marc Ferreri qui perce pas aussi là où.
Dans l'équipe de légende de Nico Jamin.
Tu sais qui aussi ? Alors, un joueur qui avait. Alors là, qui aurait pu être un des meilleurs joueurs du monde. Et puis les blessures et les mauvais choix aussi de club après, Dragan Sekovic.
On espère surtout que Dario Benedetto ne sera pas un talent déchu à l'OM pour Jonathan Maccardi.
Après avoir marqué
Grande crack
champion à Boca. Non, joueur honnête pour 15 millions d'euros sur le marché des avant-centres. Pour un avant-centre que tu payes 15 millions d'euros, c'est très bien. Est-ce que c'est un crack? Non.
Est-ce que c'est un joueur voilà, des champions?
Non, mais c'est un très bon joueur.
Tu lui dis de l'être, il est reparti en vrille. Merci François, merci Jonathan. Merci. On vous rappelle que demain il n'y a pas d'after parce que c'est le grand rush avec François Sorel pendant 24 heures. On se retrouve pour le débrief du trophée des champions depuis Shenzhen à 13h.
C'était bien bizuté ou pas?
Bien, j'ai pris ça. Tu dois remercier un petit peu plus les auditeurs. Merci beaucoup les auditeurs pour ces 3 heures de contribution. On vous embrasse et à samedi soir dans l'after.
De hashtag RMC Live
sur RMC.
RMC L'After Foot.
It had been 22 years since Dan and Tom last met, since they shared a desk in maths and played football together at lunchtime. 22 years with nothing more than a few Christmas cards and an online friend request to show for it. A 21st century eulogy for the loss of a once great friendship. Until a chance meeting outside the corner shop. On a morning, they both decided to ditch the car and walk instead. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.